Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous tourner dans le chapitre 4 de Zacharie. Alors, si vous n'avez pas l'habitude des petits prophètes, c'est juste avant le début du Nouveau Testament. Vous revenez en arrière. Et vous avez Malachie, juste avant Matthieu, et avant ça, Zacharie 4. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce que nous savons qu'elle est la vérité, que sur elle nous pouvons fonder nos vies, Seigneur, parce qu'à travers elle, nous te rencontrons, nous t'entendons. Tu l'as inspiré par tes prophètes et nous prions pour que ton Saint-Esprit, qui l'a inspiré à ses prophètes et à ses auteurs humains, puisse nous la restituer, qu'elle puisse résonner dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment avoir son effet, comme tu le promets, Seigneur. Tu dis que, comme la pluie ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, sans avoir donné du pain pour les hommes, Seigneur, et ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, parce que même si elle n'est plus toute récente, Seigneur, cette parole, elle est toujours toute pertinente, Seigneur. Et c'est pour ça qu'elle est spéciale, entre autres choses, c'est qu'elle nous parle aujourd'hui. Et qu'elle nous enseigne, elle nous reprend, elle nous exhorte, elle nous instruit dans toutes tes voies, Seigneur, pour que nous puissions entrer dans tes œuvres. Sois béni, Seigneur, pour cette parole. Sois béni pour cette prophétie de Zacharie, où nous voyons notre Seigneur, notre Sauveur, le Messie, que les chrétiens, les croyants de l'époque attendaient, Seigneur, et que nous avons eu le privilège de voir venir une première fois. Seigneur, merci parce que Zacharie parle non seulement de cette première fois, mais aussi du retour de Jésus-Christ à la fin des temps. Seigneur, parle-nous ce matin. Aide-moi, Seigneur, à enseigner cette parole avec droiture, avec des dons de prophétie, des dons de connaissance, des dons de sagesse. Le don d'enseigner aussi, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment grandir ensemble et te glorifier, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, j'ai lu ce matin qu'en fait, le fait qu'il y ait une heure de décalage, qu'on ait une heure de plus, qu'on retarde nos pendules d'une heure, ne faisait pas qu'on dormait une heure de plus. Peut-être vous étiez sous l'impression que chouette, une heure de sommeil en plus, mais le fait qu'on soit déjà habitué à se réveiller à certaines heures en fonction de la luminosité ambiante, etc., en fait, on est généralement plus fatigué parce que j'ai remarqué ce matin qu'on était plutôt en retard qu'en avance. Parce qu'on se dit, on a le temps, pas de problème. Et finalement, on revient. On pousse les choses un peu loin et on est un peu à la bourre. Quand j'étais jeune homme, je me souviens de la première voiture que j'ai pu m'offrir ou qu'on m'a aidé à m'offrir. Pour ceux à qui je peux parler d'un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était une Simca 1000. Et c'était une Simca 1000 d'une belle couleur bleue, un peu comme le bleu de la carte ou le pull d'Ali. Mais c'est un bleu, bien bleu. Mon moniteur d'auto-école, un ami de la famille qui m'avait guidé vers cette voiture, il m'avait dit, tu verras, elle est très belle. Elle est bleue tomate. Il avait le sens de l'humour. Et Toujours est-il que j'étais très content de prendre cette voiture. Et puis, à l'époque, j'habitais à Marseille. J'étais étudiant à Marseille. Et la voiture se trouvait à Nice. J'avais passé mon permis sur une Simca 1000, donc ils pensaient que ce serait facile pour moi. Sauf que la marche arrière sur la voiture que j'avais achetée n'était pas la marche arrière au même endroit que la marche arrière sur la voiture de l'auto-école. J'y ai pas testé au départ, mais je suis parti en route donc de Nice vers Marseille. Je prenais bien sûr la Nationale 7 à l'époque. Et en fait, je me suis aperçu, en me garant quelque part, que je ne trouvais pas la marche arrière. J'ai dit, je vais faire attention de jamais avoir besoin de marche arrière. Ce n'est pas évident si vous faites attention. Et donc, je suis parti et à Brignoles, je me souviens, j'étais dans une rue pas très, très large. Et je suivais une voiture de police. Et voilà que la voiture de police pile et s'arrête. Et moi, je m'arrête derrière elle. Et il y a le policier qui me dit « Oh, c'est bon, reculez, dépassez-nous. » Je dis « Non, ça va, j'ai tout mon temps. » C'est gênant de dire au policier « Je ne sais pas où se trouve la marche arrière sur la voiture que je conduis. » Mais ça, c'était un premier incident. Le deuxième incident, c'était qu'à l'époque, j'étais pas chrétien et que l'été, on était parti avec des copains. On avait fait du camping près d'Antibes et on faisait la Java un peu. On sortait avec ma petite voiture. Et puis un jour, j'ai remarqué que il y avait un voyant qui s'allumait. C'était bien rouge. Mais il n'y avait pas de garage, et puis on avait rendez-vous, il fallait absolument qu'on arrive. Donc j'ai décidé d'ignorer le voyant rouge. Il se trouvait que c'était le voyant de la pression d'huile. Et donc, suivant l'expression consacrée, j'ai coulé ma première bielle. Le moteur s'est grippé, le moteur avec la friction qui est plus empêchée par l'huile. Le moteur a chauffé au point de faire fondre les soupapes dans le moteur et ça m'a permis d'apprendre la mécanique rapidement. Mais ce voyant rouge, en fait, Dieu veut nous dire que il veut nous faire constater des fois dans notre vie que nous manquons d'huile, que nous sommes éloignés de l'Esprit Saint. On y reviendra, mais l'huile dans la Bible est souvent une analogie, une représentation, un symbole de l'Esprit Saint. Et cette huile de l'Esprit Saint, on en a parlé plusieurs fois. On a vu avec Tonieux qui a fait une série sur le Saint-Esprit pour essayer de trier ce qui est biblique de ce qui l'est moins ou ce qui n'est pas. Et aussi, vous souvenez, à la montagne, nous avons eu une série d'enseignements sur l'action du Saint-Esprit dans l'Église. L'action du Saint-Esprit, elle est essentielle. Dans notre passage aujourd'hui, c'est donc Zacharie 4, on continue dans les prophéties de Zacharie. Il y a deux versets que l'on connaît, même si on n'est pas familier avec les petits prophètes ou avec Zacharie. Le premier, on a l'expression « Ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » C'est dans ce chapitre qu'on va regarder aujourd'hui que se trouve ce verset bien connu. « Ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit de Dieu. » Et puis, un autre passage ou une autre expression, un autre concept que l'on connaît aussi, c'est de ne pas mépriser le jour des petits commencements. Ça, c'est au verset 10 de notre chapitre 4. Et donc, je trouvais intéressant que ce petit chapitre, cette petite vision décrite par Zacharie, contienne ces deux versets qui sont tellement importants pour notre vie de chrétien. On va lire ensemble le chapitre 4, c'est assez court. On vous rappelle que Zacharie est un des prophètes d'après l'exil. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, puis le prophète Malachie, ont parlé au nom de Dieu après le retour d'exil ou pour encourager à la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem qui avait été détruite par les Babyloniens qui avaient emmené le peuple juif en exil. Et ces prophéties sont des prophéties d'encouragement pour encourager le peuple juif à persévérer. Et on avait fait remarquer qu'il y avait des millions qui avaient été exilés, mais qu'en fait il y avait un très petit nombre comparativement qui était revenu à Jérusalem. Il n'y en avait que près de entre 40 et 50 000 seulement. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à tous ceux qui étaient restés. On avait vu que ceux qui étaient restés, c'était parce qu'ils s'étaient bien installés. Ils vivaient une vie confortable, ils n'avaient pas envie de bouger. Mais il y en avait quelques-uns qui avaient répondu à l'appel de Dieu. Et on sait, en regardant Esdras et Néhémie, qu'ils ont fait face à beaucoup d'opposition dans leur projet de revenir à Jérusalem, de revenir en Judée. Dieu est intervenu en permettant l'accession au règne d'un dénommé Cyrus qui a autorisé les Juifs à repartir dans leur pays d'origine. Mais il y a eu beaucoup d'opposition et les Juifs étaient découragés. Alors je sais que c'est quelque chose qui vous arrive jamais, d'être découragé. Je plaisante bien sûr parce que on est tous très prônes au découragement. On est souvent plein de zèle et d'ardeur pour commencer quelque chose. Et puis, avec la fatigue, les obstacles, les difficultés, le fait que la chose n'est plus nouvelle. On le voit par exemple quand on commence une étude biblique. J'espère que vous serez nombreux à venir pour la première étude du jeudi soir sur l'évangile de Marc. Mais on part nombreux et puis il y a ce qu'on appelle l'attrition. Et l'attrition, c'est triste. C'est le fait que les gens se découragent et ne persévèrent pas. Et Dieu donne à ce prophète, qui est Zacharie, fils de Bérékia, petit-fils d'Ido, on a vu que ça voulait dire « Dieu se souvient et il répond en son temps. Il bénit au moment voulu par lui. » Et là, de toute évidence, Dieu veut bénir le peuple d'Israël qu'il a laissé partir en captivité parce qu'il lui désobéissait. Et que à maintes et maintes reprises, il a essayé de les encourager à marcher avec lui, mais dès que ça allait mieux, il laissait tomber Dieu. Et donc, il les a laissés partir en exil. Mais Dieu se rappelle d'eux et il les bénit au moment voulu par lui. Il va punir les méchants qui oppriment son peuple. Il donne au prophète Zacharie, on dit entre Généralement, on parle de 8 visions. Certains comptent 10 en divisant certaines des visions. Mais ces visions sont pour montrer que Dieu ne les a pas laissées tomber. On a vu la première vision des chevaux et on a vu que c'était la preuve que Dieu était au milieu d'eux et qu'il allait les bénir en son temps, que Jérusalem allait être reconstruite. En prophétie, il y a souvent un accomplissement immédiat ou proche. C'était le cas pour la reconstruction d'Israël et de Jérusalem. Mais il y a aussi une dimension de fin des temps, ce que certains appellent d'eschatologie. À la fin des temps, ça veut simplement dire cela. Mais ça fait plus théologien. Si vous dites, d'un point de vue eschatologique, ne vous laissez pas intimider par ça. Ça veut simplement dire à la fin des temps, ce qui est intimidant aussi, mais il leur disait que Jérusalem allait être reconstruite là, maintenant, et puis c'était aussi à la fin des temps, Jérusalem va devenir le centre du monde. Il va y avoir un règne de 1000 ans de Dieu, et puis après il y aura la nouvelle Jérusalem. Il leur promet des bonnes choses dans cette vision des chevaux qui sont présents, où l'ange de l'Éternel, on a dit que c'était un terme qui désignait Jésus-Christ avant son incarnation à Bethléem, mais Jésus-Christ étant Dieu est éternel et il intervenait déjà parmi les hommes. Ensuite, on a vu la vision des cornes et des forgerons. Alors là, il y en a qui disent... C'est deux visions ou une seule, mais les cornes, c'était les puissances, ça symbolise la puissance des nations qui avaient attaqué Jérusalem, qui avaient dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et puis il y avait des forgerons qui détruisaient ces cornes. Et on a vu en fait que c'est sans doute chaque nouvelle corne détruisait l'ancienne corne. Et on a parlé de Babylone. Et puis des Perses qui détruisaient Babylone, des Grecs qui ont détruit les Perses, et puis des Romains qui ont détruit les Grecs. Tout ça pour dire que Dieu est en contrôle de l'histoire. Il y avait aussi la vision d'un ruban, d'un homme qui mesurait Jérusalem, et là on a dit qu'en fait il mesurait pour voir quelle devait être la taille, l'agrandissement de Jérusalem, parce qu'il allait y avoir des multitudes qui viendraient à Jérusalem. La semaine dernière, Tony nous a parlé de la vision du grand prêtre Josué, qui était comme un bout de bois arraché au feu. C'est étrange, Satan est en présence de l'ange de l'Éternel, et on voit que Dieu... En l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, donne un vêtement blanc, un vêtement pur, avec un turban pur, parce que il portait des habits sales. Le grand prêtre n'était pas digne de sa fonction, il portait des habits sales. Et on a malheureusement la bienséance ou ce qu'on pense être bien, les hommes ont tendance à ne pas vouloir utiliser les mots que Dieu utilise dans sa parole. En fait, là, quand il parle de vêtements sales, il ne parle pas de cambouis, il parle d'excréments. Pour dire qu'aux yeux de Dieu, si la personne n'est pas purifiée par l'Esprit Saint, toutes nos œuvres sont vaines et c'est quelque chose qui répulse l'Éternel. Mais cet homme est revêtu de la pureté de Jésus-Christ et il va être capable d'exercer son ministère. Ça, c'était le grand prêtre. Il y avait deux personnages importants dans ce retour à Jérusalem. C'était le grand prêtre Josué et puis le gouverneur ou le responsable politique ou civil qui s'appelait Zorobabel. On en entend parler dans Esdras, dans Néhémie. Et la semaine dernière, donc, ou plutôt la vision du grand prêtre, c'était sur Josué. Aujourd'hui, on a une vision qui concerne Zorobabel. Zorobabel, et on va enfin lire le texte. L'ange qui me parlait est revenu, et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit : Que vois-tu ? J'ai répondu : Je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait : Que signifie cela, mon Seigneur ? L'ange qui me parlait m'a répondu : Ne sais-tu pas ce que cela signifie ? J'ai dit : Non, mon Seigneur. Alors il a repris et m'a dit : Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et lui ai dit : Que signifient les 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier ? J'ai repris la parole : Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ? Il m'a répondu : Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ? J'ai dit : Non, mon Seigneur. Il a dit : Ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Intéressant. Quand on lit la Bible en un an, on n'a souvent pas trop le temps de voir, d'essayer de comprendre un peu ce qui est dit. On se rappelle de cette vision d'un chandelier d'or avec un bol où il y a de l'huile, d'olivier, des oliviers qui coulent qui ont des tuyaux d'or qui amènent l'or de l'huile d'olive dans un bol qui est relié aux chandelles. C'est intéressant d'essayer de faire un dessin de ça. Je vous invite à le faire. Et puis après ça, d'aller voir Google et dire chandelier Zacharie 4, image, et de voir toute la créativité qui s'est exprimée au cours des siècles et encore aujourd'hui. Mais plus que la représentation exacte, ce qui compte, c'est le sens de cette vision. Vous noterez bien que l'ange a réveillé le prophète pour lui donner la vision. Et on a dit que les visions, ce n'est pas la même chose que les rêves. Les rêves, on dort, et on peut s'en rappeler le matin, Tony en a parlé, ou pas. Mais lorsqu'il y a une vision prophétique, l'esprit est complètement éveillé et la personne est éveillée généralement. Il a donc dû réveiller Zacharie. Zacharie, il était fatigué. Il en était à sa 4e ou 5e vision prophétique. Et tout ça, ça s'est passé en une seule nuit. Il n'a pas dormi beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait un changement d'heure ou pas. Mais il était épuisé. Ça parle, Souvent, on a des personnes qui disent, qui donnent des prophéties à droite et à gauche, ou qui se disent prophètes, et qui le font de façon un peu légère, ou comme si c'était facile pour eux. C'est jamais facile de recevoir une prophétie, la vérité de Dieu. Nous-mêmes, lorsque nous parlons de prophétie aujourd'hui, ça peut être simplement le fait de réaffirmer ce qui est déjà déclaré dans la parole de Dieu. Recevoir cette parole, ça prend de l'énergie. On peut être désengagé et lire, mais ça va être très surface. Si on veut étudier la parole, ça va prendre de l'énergie. Paul disait à Timothée de se montrer comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui étudie, qui divise correctement la parole de Dieu. Mais en même temps, c'est une chose merveilleuse. On a la parole de Dieu entre nos mains. On peut la lire à n'importe où, n'importe quel moment. On peut l'écouter. Je vous invite, si vous avez un téléphone, à charger une application qui vous permet d'écouter, plutôt que d'écouter France Info ou Énergie ou je ne sais pas quoi, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Vous nourrir même subconsciemment, c'est mieux si vous êtes réveillé, mais même si vous n'êtes pas réveillé, ça entre en vous. Et l'ange donne cette vision et lui demande « Qu'est-ce que tu vois ?» Et le prophète Zacharie a dit « Je vois un chandelier tout en or, c'est surmonté d'un réservoir portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent deux oliviers, l'un à droite du réservoir, à l'autre de sa gauche. » Donc il voit cette vision que je vous invite à imaginer aussi dans votre esprit. C'est ce que ce chandelier à sept branches, ça remonte aux prescriptions donné à Moïse dans l'Exode, et on sait que dans le tabernacle, le chandelier éclairait le saint lieu. Si vous vous souvenez, on a souvent imaginé qu'on entrait dans le tabernacle. Il y avait d'abord, en venant de l'extérieur, on rentrait dans le parvis, on franchissait une première porte, on allait dans le parvis, et de là, il y avait à l'intérieur du parvis, il y avait cette construction en toile riche avec des peaux de phoque, etc., dans laquelle il y avait un premier compartiment qu'on appelait le saint lieu, et puis il y avait le saint des saints qui était derrière et auquel seul le grand prêtre avait accès une fois par an, après avoir offert un sacrifice pour le peuple et offert un sacrifice pour lui, le jour des expiations, le Yom Kippour. Il n'y avait qu'une fois par an qu'il pouvait entrer ainsi. Et dans le Saint des Saints, il y avait l'Arche de l'Alliance surmontée des anges, des chérubins. Et puis, il y avait la présence lumineuse, divine, glorieuse, la Shekinah, la présence de Dieu. C'était le seul éclairage qu'il y avait, mais quel éclairage! Dans le premier compartiment, qui était plus grand, la lumière était assurée par le chandelier à sept branches. Il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition à droite, et devant il y avait l'autel des parfums. Puis ça a été repris dans la construction du temple de Salomon. Mais une des tâches essentielles des prêtres qui se relayaient, qui étaient descendants de Lévi, c'était d'entretenir le chandelier pour qu'il ne s'arrête jamais de brûler. Je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, j'aurais dû faire les recherches pour savoir comment la flamme du tombeau du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, est-ce qu'il y a un tube en gaz qui est vérifié en permanence. Mais c'était la même idée, on ne voulait jamais que la flamme ne s'arrête. Et donc c'était un travail interminable. On n'avait jamais fini de s'occuper du chandelier à sept branches. Il fallait nettoyer les mèches, enlever la suie qui s'était formée, peut-être les couper, les rafraîchir, veiller à ce qu'il y ait bien assez d'huile pour la période suivante, etc. Et là, en fait, on a une espèce de chandelier automatique. Il n'y a pas besoin de l'intervention humaine. C'est l'Esprit de Dieu qui est symbolisé par l'huile qui alimente et qui fait brûler ce chandelier. Ce chandelier, ça parle de témoignage, ça parle de lumière. Les Juifs, nous l'avons dit, avaient été bénis, choisis, décidé que ce seraient eux qui devaient porter le témoignage de Dieu aux autres nations. Et on sait que leur problème, ça a été de considérer que ce qui était donné comme une mission, ils l'ont reçu comme un signe de privilège. Ils ont pensé que Dieu nous a choisis parce qu'on est les meilleurs, on peut mépriser les autres, alors que Dieu voulait qu'ils répandent l'amour, la nouvelle de l'amour de Dieu à toutes les nations du monde. Le chandelier, ça représentait Israël. Aujourd'hui même, dans l'État d'Israël, un des symboles qu'on trouve sur leurs pièces de monnaie, c'est la menorah, le chandelier à sept branches. Et puis on sait que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et nous sommes appelés à être des lumières aussi. Quand on lit l'Apocalypse, qu'il faut lire après avoir lu tous les autres livres de la Bible pour y comprendre quelque chose, notamment Zacharie, il est question des églises, des sept églises qui représentent non seulement l'histoire de l'Église, mais aussi tous les types d'églises qui peuvent exister à un moment donné de l'histoire et même aujourd'hui. Ces églises sont représentées par des chandeliers, parce que nous amenons la lumière autour de nous. Ou c'est ce que nous devrions faire, amener la lumière. Une leçon qu'on peut retirer, une analogie parallèle qu'on peut retirer de ce message, et j'en ai pas fini encore, mais c'est de dire que quand on travaille pour Dieu ou qu'on vit notre vie de chrétien, on est tous menacés, j'y ai fait allusion, à un espèce d'épuisement, un espèce de... Et là, c'était le cas, Zorobabel, aussi bien que Josué, le prêtre qui devait être lui purifié, Zorobabel, il devait être encouragé pour ne pas se laisser aller au découragement, à l'épuisement, à la dépression nerveuse. Et une des choses essentielles pour éviter ce genre d'épuisement spirituel, c'est de réaliser l'importance de la tâche qui nous est confiée. Peut-être que c'est pas facile pour vous d'être assidu aux réunions de l'Église, de lire la parole tous les jours, de prier. Mais si vous souvenez de l'importance de la tâche qui vous est confiée dans la connaissance de Dieu, dans la prière, dans le service, si vous venez faire le ménage en semaine, c'est pas pour le plaisir de séparer des poussières de la moquette. C'est pour faire que cet endroit soit digne et soit propre, agréable, pour qu'on vienne et qu'on puisse entendre la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu, de Jésus en Dieu. Et donc se souvenir, et c'est ce que fait Dieu en parlant par Zacharie à Zorobabel, c'est de lui dire, le temple que tu veux reconstruire, que tu vas reconstruire, il va lui dire qu'il va le reconstruire. Et ça, c'est 4 ans plus tard, le temple, le premier temple va être reconstruit. Grande victoire, parce que ça faisait 16 ans que c'était en arrêt, pratiquement. Il lui dit, ce qui compte, c'est pas tellement les pierres du temple, c'est la lumière qui se dégage du temple. C'est la vérité de l'amour de Dieu, c'est la vérité de Dieu qui est le Créateur, le Tout-Puissant, qui veut que les hommes l'aiment, le reconnaissent, le glorifient. Et donc, en lui parlant de cette lumière, il lui fait comprendre que l'important, c'est pas la rose, l'important, c'est la lumière. L'important, c'est la lumière qu'ils peuvent, et vous aussi, nous, moi aussi. L'important, c'est pas de venir remplir une salle ou pas. L'important, c'est pas de marquer chaque matin le chapitre qu'on a lu. L'important, c'est de briller pour Jésus. C'est de le faire connaître. De donner envie à ceux qui ne le connaissent pas encore de venir à lui et de le rencontrer, de le connaître. Et quand on a ce... On a dit que, en fait, comme le temple avait été détruit, c'était un monde, et qu'il y avait... La prophétie était qu'il n'y aurait pas une pierre qui ne soit pas retournée. Et on a expliqué qu'en fait, comme il y avait eu un incendie, ça avait fait fondre l'or, et les soldats romains, pour récupérer cet or, étaient prêts à enlever, bouger les pierres, jusqu'à recueillir sur le sol l'or fondu. Et donc, le temple avait été complètement détruit. C'était plus qu'un énorme monceau de pierres, et c'était comme une montagne. Et on peut imaginer que devant ce gâchis, devant ces ruines, ils n'avaient pas de bulldozer. Il n'y avait pas de Poclin, ni de... Je ne sais pas quelle marque aujourd'hui. Quelle compagnie fabrique des Caterpillar. Ça n'existait pas. C'était à la force des muscles, et peut-être de levier, c'était un travail énorme. Et ce mot encourageant, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Notez bien, c'est la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ça doit être pour nous, savoir que Dieu connaît mon prénom. Dieu me connaît, Dieu vous connaît. Il connaissait Zorobabel et il dit ça, c'est une parole pour toi, Zorobabel. Waouh ! Dieu me connaît, il me parle. Il vous connaît, il vous parle. Si vous l'écoutez, si vous lisez la parole tous les jours, il va dire, mettez votre prénom, je veux que tu fasses ceci ou je voudrais que tu cesses de faire cela. Là, une parole d'encouragement. Qui es-tu, grande montagne, devant mon serviteur ? Tu fais la maline en t'étendant sur des kilomètres ou des centaines de mètres, en étant très, très lourde à bouger. Mais je dis qu'il va en extraire la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors là, certains peuvent penser que c'est la pierre de l'ange, Jésus, mais c'est simplement, je crois, la dernière pierre qu'on mettait au sommet du temple. C'était pour un symbole de « on a terminé, on a reconstruit, c'est fini, grâce, grâce pour elle, gloire, gloire ». Et Dieu continuait en disant « c'est pas simplement une promesse en l'air, je dis que toi, Zorobabel, tu as commencé, tu as recommencé à mettre des fondations et tes mains vont le terminer. Et tu pourras dire, oui, c'était vraiment Dieu qui nous a parlé. » Il parle de ceux qui méprisaient le jour des petits commencements. Parce qu'on a dit que, avec le prophète Agé, lorsqu'on a parlé de reconstruire le temple, c'était à une échelle moindre que le temple de Salomon. Et pour les anciens qui avaient connu le temple de Salomon, qui en avait entendu parler, s'il n'y en avait plus beaucoup, qu'il avait vu visuellement, mais ils étaient déçus, ils disaient « Oh, c'est rien votre temple là. Ah, si vous aviez connu de mon temps, c'était autre chose. » Moi, j'ai connu Nice en l'an 1900. Il y avait des évangélistes dans tous les coins de rue. Il y avait des missionnaires italiens qui ouvraient des églises à droite, à gauche. Il y avait des Américains qui venaient, qui construisaient des églises. Ah, c'était formidable. Aujourd'hui, regardez-vous. Non, Dieu ne veut pas qu'on ait ce genre de pensée, de sentiment. Quand on fait l'œuvre de Dieu, que ce soit en tant que responsable d'un ministère, ministère d'une maman auprès de ses enfants, responsable de leur éducation religieuse. Ce n'est pas l'école du dimanche qui est responsable, c'est la maman, le papa, la famille. Que ce soit auprès de vos collègues de travail, vous témoignez, vous les amenez à Christ. Que ce soit parce que vous êtes en position de missionnaire ou de pasteur ou d'ancien. Il y a des choses qui semblent négatives. D'abord, il y a toujours des problèmes. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des problèmes dans tout ce qu'on fait? C'est drôle, ça. Et puis, l'œuvre de Dieu, ça semble si lent. On essaye d'apprendre les bonnes manières aux enfants. On essaye de leur parler de Dieu. Ne vous découragez pas. C'est la même chose pour bâtir une église ou bâtir un ministère, s'investir. Ça semble très lent et ça semble aussi très insignifiant. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à Nice? Regardez, on est 50 ou 70 les bons jours, plus 100 de temps en temps quand la salle est remplie. S'il y a un pique-nique après, non, je plaisante. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le royaume de Dieu à Nice? Est-ce qu'on fait une différence? Il ne faut pas mépriser les débuts, les petits commencements. Il y en a un qui ne méprise pas les petits commencements, c'est Satan, notre adversaire. Si vous avez fait un peu de formation incendie, vous savez que pour éteindre un feu, dans les premières secondes, il suffit d'un verre d'eau. Si vous ne réagissez pas rapidement, au bout de 5 minutes, il vous faudra un bon seau d'eau. Au bout d'une heure, il faudra la lance à incendie des pompiers. Et plus longtemps, il faudra envoyer les canadaires. Satan, il veut éteindre le feu de Dieu. Quand vous vous lancez dans un ministère, alors dans toute l'étendue du terme, ça peut être même de commencer une étude biblique, vous inscrire pour un cours biblique. Satan, il sait que le moment pour éteindre ce feu, c'est tout de suite. Avant que vous ayez pris des bonnes habitudes de lire la Bible tous les matins, il va vous distraire. La première fois que vous dites « Ah, je vais commencer à lire comme on en a parlé à l'église », il va vous distraire. Il va, si vous avez... C'était une parole auquel je me suis accroché quand on est venu dans l'idée d'implanter une nouvelle église à Nice. C'était que Satan, il essaye d'éteindre ça tout de suite. Il ne méprise pas les petits commencements, lui. Il sait que si c'est, on peut le faire comme ça, sans avoir à exercer beaucoup d'énergie. Et donc, il y a ce besoin de persévérance. Il faut savoir qu'il y a des choses positives dans l'œuvre de Dieu. C'est que Dieu se réjouit de tout travail qui est fait pour lui. Il peut se réjouir avec les anges lorsqu'il vous voit passer la serpillière à l'église. Tu vois, regarde, un tel, une telle, Ça peut être aussi bien un tel qu'une telle d'ailleurs, je vais rappeler. Elle fait ça par amour pour moi. Alléluia. Béni soit-il, béni soit-elle. Il faut se rappeler que l'œuvre de Dieu, elle va finir par prévaloir. Même si aujourd'hui on a l'impression qu'on est une infime minorité, il y a des pays où l'œuvre de Dieu est en plein mouvement, en plein essor. Souvent quand ça pousse très vite, il peut se produire des bonnes choses et il y a aussi du bon grain, il y a de l'ivraie. Mais Jésus dit, laissez-les jusqu'à la fin, on verra. Savoir que ce qu'on fait, c'est important et que, en fait, cette œuvre qu'on fait pour lui, ça révèle Dieu en nous et à travers nous. Paul dit qu'on est des vases de terre, mais qu'on contient à l'intérieur le trésor de Jésus-Christ et de l'Évangile. C'est le symbole des Gédéons, c'est l'Évangile dans un vase de terre. Nous ne sommes rien, mais on nous a confié un trésor inestimable, le salut des hommes en Dieu, en Jésus-Christ. Et puis, cette alimentation de la menorah, du chandelier avec ses tuyaux qui viennent. L'huile vient de deux arbres, est recueillie dans un bol. Et puis de ce bol, il y a 49 tuyaux qui vont à chaque. Il y a 7 tuyaux d'après le texte grec, hébreu plutôt. Les spécialistes de l'hébreu disent qu'en fait, ça veut dire qu'il y a 7 fois des tuyaux, donc 49 tuyaux qui vont alimenter. Autrement dit, ça ne manque pas d'huile. On dit lorsque quelqu'un est impoli ou fait des choses audacieuses, on dit « il ne manque pas d'air ». Nous, en tant que chrétiens, on veut ne pas manquer d'huile. On ne veut pas manquer de l'Esprit-Saint. On doit être toujours, continuellement, être rempli de l'Esprit-Saint. Et dans Zacharie, la parole de l'Éternel, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. La puissance, ça fait appel, ou ça évoque la force d'un groupe. La force, c'est plus la force d'un individu ou ses propres ressources. Et Dieu nous dit, encore une fois, ce n'est pas par des méthodes humaines où on rassemble des forces, ou ce n'est pas par le développement personnel, psychologique, ou avec de physique, où on va devenir costaud et vachement bien dans sa tête, qu'on va faire le travail de Dieu. C'est seulement par son esprit, par mon esprit. Dieu veut être glorifié par l'œuvre pour son royaume. Si c'est un homme qui en retire la gloire, il n'aime pas ça. Pas parce qu'il est super égotiste ou il a la grosse tête et qu'il veut qu'on ait une admiration béate. Pas qu'il ait besoin de ça. C'est parce que c'est l'ordre des choses. Il est Dieu, nous sommes des créatures. Si on se prend pour Dieu, on est fou. On est insensé. Dieu veut que les choses se fassent comme il l'a établi. Il y a un maître de l'univers. La chose merveilleuse, c'est que c'est un Dieu d'amour qui veut le meilleur pour chacun de nous. Pour tous les hommes, pas seulement les chrétiens. Il le veut pour tous les hommes. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Si on croit en lui. Il veut bénir tous les hommes. Et avec cette puissance, Zorobabel a pu relever le défi. Une chose qui est importante, c'est aussi que de réfléchir un peu sur les vertus les vertus de l'huile. Chose que je voulais dire aussi, c'est que lorsque je parlais que Satan veut tuer les nouveaux départs de feu, et on comprend que dans notre contexte c'est une mauvaise chose, c'est bien quand, si on est pompier, pour pas que ça détruise dans le cas des incendies c'est l'inverse, mais on veut que ça, il faut qu'il y ait de la prière, parce que c'est encore une fois faire appel à l'Esprit Saint que de prier. Et je me souviens que au début, lorsqu'on a commencé à se réunir en 93 dans notre living room avec Tonio et Sébastien, son frère, on était quatre et on était rapidement découragés. Je me souviens d'une fois où Nancy était malade. On avait un petit groupe à la maison. Et le jour où Nancy avait été malade et les enfants étaient au foot, sur la petite quinzaine de personnes qui venaient normalement, il y avait une seule personne qui était venue. Et là, je m'étais dit, à quoi bon ? Et je vous encourage à persévérer, à prier. Et quelque chose qui m'avait beaucoup encouragé, c'est qu'on avait la secrétaire de notre pasteur Wayne Taylor de Seattle, qui était venue en Europe, qui nous avait rendu visite. Elle nous avait dit, si vous saviez comment on prie pour vous, vous ne pouvez pas échouer. Est-ce qu'on prie les uns pour les autres ? De savoir qu'on prie pour vous, c'est fantastique. Et puis il faut se rappeler que si on n'a pas prié, on l'a vu dans Zacharie aussi, Jésus a déjà prié pour vous. Il intercède sans cesse pour nous. Même si personne d'autre, vous avez la meilleure des prières qui soit, mais il ne faut pas se laisser décourager. Je disais que l'huile, c'est souvent une représentation du Saint-Esprit. C'est un lubrifiant. Ça permet de faire que les rouages tournent sans se gripper. C'est pour ça que Maxime Camille était morte, parce qu'il n'y avait plus de lubrifiant. Et quand on a vécu dans une église un long moment, comme une semaine, on sait qu'on a besoin de lubrifiant dans nos rapports avec les autres. Non ? Vous avez remarqué qu'on peut se prendre en grippe les uns les autres. Il n'est pas question de rhume. Se prendre en grippe, ça ne fonctionne plus. Il faut que l'Esprit de Dieu soit là pour nous aider. L'huile était aussi un traitement médical. C'est l'huile guérit. Vous vous souvenez, dans Luc, il est dit dans Jacques, il est dit de rassembler les anciens, de mettre de l'huile pour prier. Lorsque le bon samaritain a aider son prochain, il lui a mis de l'huile sur ses plaies. L'huile fait une couverture, ça évite la contamination extérieure, ça adoucit. L'huile illumine. Quand on fait brûler de l'huile, comme le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est là, il y a de la lumière. Les visages sont éclairés de l'intérieur. pas de faux sourire. Il faut que ça soit vrai, véritable. L'huile, ça ravigote. Quand on fait des massages avec de l'huile sur des muscles qui sont fatigués, endoloris, ça redonne de la force, ça apaise. L'huile embellit. On utilise de l'huile pour comme un parfum. L'huile polie, quand on met sur du métal, on peut faire briller du métal en mettant du WD-40 dessus, une huile moderne. Et donc cette huile, c'est aussi un symbole de joie. Aujourd'hui, on ne pense pas tellement à ça, mais dans 2 Samuel, dans le psaume 104, c'était associé à la joie. Le Saint-Esprit doit être vraiment notre seule source de joie, parce que c'est la bonne source de joie. Toutes les autres choses qui nous sont données par Dieu, et nous devons les recevoir avec joie aussi. Mais Paul disait dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, on voit que cette vision, elle nous parle aujourd'hui. Quelle est la grande montagne auquel vous êtes confronté? Est-ce que ce sont des problèmes financiers, des problèmes personnels, des problèmes de péché habituel dont vous n'arrivez pas à vous délivrer? Quelle que soit la montagne qui vous impressionne, par la force de l'esprit, elle peut être vaincue. Ne méprisons pas les petits commencements. Il dit que ceux qui méprisaient se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Alors, en fait, c'est un mot qui veut dire simplement pierre, mais c'est souvent, en fait, d'autres versions disent fil à plomb. C'était quelque chose de lourd, une pierre d'étain qui était suspendue à un fil pour indiquer la construction, que la construction était en marche. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel, ça c'est une référence à la prophétie du grand prêtre. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre et il dit que c'est les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. C'est la toute connaissance, la toute puissance de Dieu qui connaît tout, l'omniscience de Dieu plus exactement. Il demande encore quels sont les oliviers à droite et à gauche. Et là, il dit qu'en fait, ces 2 rameaux, j'ai expliqué que lorsqu'il est question d'or, c'était une façon de voir l'huile d'olive comme quelque chose de précieux, qui a une couleur dorée aussi. Et une chose au passage que j'aime bien, c'est que l'ange qui parle, l'ange qui traduit pour Zacharie, il lui dit « Mais tu sais pas ce que c'est ça ?» Tu sais pas ce que c'est ? Et ce que j'aime bien, c'est qu'il ne dit pas « Oh, si, bien sûr. » Il dit « Non, je sais pas. » Et je vous encourage. J'ai dit, lorsque on fait des études bibliques ensemble, les seules questions stupides, c'est celles qu'on ne pose pas. Et vous allez savoir, vous devriez savoir que quand vous posez votre question stupide, il y a beaucoup de gens intelligents qui sont vraiment heureux que vous l'ayez posée. Parce qu'ils n'avaient rien compris non plus. Donc, il n'est pas honteux de demander. Et il explique que ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et là, on pense que c'est une référence justement au grand prêtre et à Zorobabel, donc Josué et Zorobabel. On sait aussi que dans l'Apocalypse, il est question des 2 témoins. Et là, on pense que ce serait peut-être Élie et Moïse. Mais c'est intéressant que c'est souvent 2 par 2 qu'on trouve des personnages bibliques qui sont puissamment utilisés par Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette vision, elle a des choses à nous dire aujourd'hui. Et j'espère que... Je vous invite à lire à l'avance, hein, puisque normalement... Dieu voulant, la semaine prochaine, on regardera le chapitre 5, de lire à l'avance, de faire même vos recherches, posez-vous les questions. Et c'est même drôle parce que je crois que l'ange de l'Éternel qui laisse les questions de Zorobabel, plutôt de Zacharie en suspens, verset 4, ne sais-tu pas ce que cela signifie ? Et il ne répond pas directement, c'est seulement à la fin. On pense qu'il avait vu cette scène avec ces deux oliviers. Donc je vous invite à regarder encore une fois sur Google, vous verrez des oliviers avec des têtes d'hommes qui représentent Josué et Zorobabel. Mais tout ça pour nous dire, ce n'est pas par la force, par la puissance de beaucoup de gens, par nos ressources, nos alliances, nos unions d'église, nos finances, nos moyens techniques. Ce n'est pas par la force, les dons d'une seule personne, les ressources d'une seule personne, c'est par l'Esprit de Dieu que l'œuvre de Dieu doit être accomplie. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette vision, merci de l'avoir confiée à Zacharie et avec l'idée qu'elle nous encouragerait aujourd'hui, Seigneur. Tu vois que tous, quoi que nous fassions dans ton œuvre, nous méprisons souvent les petits commencements. Aide-nous à voir l'importance de ce que nous faisons, Seigneur, pour toi. Aide-nous à ne compter que sur la ressource de ton Saint-Esprit, Seigneur. Il peut agir à travers d'autres hommes, à travers d'autres ressources, Seigneur, mais c'est à lui seul que nous devons nous confier pour l'accomplissement de la tâche que tu donnes à chacun de nous. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous à vraiment le désirer à tout moment, être continuellement en train d'être rempli de lui, Seigneur. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit, le fait que pour être très vrai témoin, il suffit pas seulement d'avoir accepté Jésus et d'avoir reçu en nous l'Esprit-Saint. On sait que l'Esprit-Saint est d'abord autour de nous, nous convainquant de justice, de péché et de jugement. Que si nous acceptons ce jugement et que nous venons à Christ, nous recevons en nous l'Esprit-Saint, mais que pour être tes témoins de par le monde, Seigneur, nous devons le recevoir sur nous. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre souhait, Seigneur. Continue de nous remplir continuellement de ton Esprit-Saint, Seigneur. Merci parce que ce n'est pas par nos propres efforts, c'est simplement en nous mettant à ta disposition, Seigneur, et en te demandant de le faire, que tu vas le faire, Seigneur. Sois glorifié. Amen.